Bonjour chers auditeurs, difficile après cette période de vacances, de soleil, de sable blanc, bon j'arrête. Donc difficile après cette période de se retrouver derrière un bureau, mais pour moi un grand plaisir de vous retrouver après pour cette cinquième édition du Pays de Carcassonne. Et ne vous inquiétez pas, à travers les coups de cœur touristiques de vos invités, vous allez très vite repartir en vacances parce que nous allons vous donner envie de repartir et que de préparer déjà ces escapades, c'est déjà un peu être en vacances. Et là, nous allons parler tourisme avec notre invitée, Marie-Chantal Ferriol. Bonjour Marie-Chantal.
Bonjour.
Alors, je prends ma respiration, chers auditeurs, et je vais vous expliquer le rôle professionnel de Marie-Chantal. Donc, Marie-Chantal Ferriol est secrétaire pour l'association FNASEM, donc ce qui veut dire Fédération Nationale de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux. Allez, je vous le refais. Fédération Nationale de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux, la FNASEM. Mais elle est aussi, et surtout, conservateur délégué aux antiquités et objets d'art de l'Aude. Donc, mais je voudrais aussi rajouter que Marie-Chantal étant une grande travailleuse et une personne d'engagement, bien vous la retrouvez aussi en tant que bénévole à l'Amicale Laïque ou au Pays Carcassonnais dans les commissions tourisme ou patrimoine, mais on la retrouve aussi dans des réunions, par exemple, contre l'expansion effrénée de l'éolien dans l'Aude. Bon, ben je crois que je vous ai tout dit, mais je vais laisser la parole à Marie-Chantal pour qu'elle nous explique comment elle en est arrivée là. Et on veut tout savoir, parce que est-ce qu'on est tombé toute petite dans la préservation du patrimoine ?
Non, mais c'est vrai que c'est un engagement qui est très lointain. Disons que assez jeune, j'ai eu la conscience qu'un engagement était indispensable aux études d'histoire. Parce que c'est vrai que je m'étais engagée dans des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Mais j'estimais que étudier l'histoire de l'art, c'était bien, mais préserver le patrimoine, c'était encore mieux et que ça donnait la base à toute étude.
Et donc, vous avez commencé par des études d'histoire de l'art ?
Oui.
D'accord.
À la faculté de Toulouse-Le Mirail, avec des professeurs prestigieux comme Marcel Durlia, Louis-René Nougier, Bruant, enfin, oui, Toulon.
Alors, c'est des métiers quand même. Tout compte fait, je pense, peu connu du grand public. Que fait un conservateur ? Déjà, si on parle déjà du métier de conservateur d'objets d'art et d'antiquité.
Alors, normalement, le conservateur, sa première tâche est de déjà faire un récollement des objets qui sont classés monuments historiques dans les communes et de proposer au classement d'autres objets. D'accord. Mais ça va au-delà, parce que quand nous arrivons dans une commune, en règle générale, nous allons surtout à l'église pour voir l'ensemble des objets qui sont déjà là. En règle générale, on essaie de faire un inventaire et de sensibiliser les personnes qui sont là, à la fois sur la richesse de leur patrimoine, ce qui est souvent le cas, sur le statut de leur patrimoine, parce qu'il faut rappeler souvent aux maires que tout le patrimoine qui est dans les églises et qui est dans l'inventaire de 1905 est tombé dans le patrimoine communal. Et ensuite, avec les marguillères qui sont là ou autres personnes qui sont à l'église, nous essayons, après inventaire, de les aider dans la conservation des objets, ce qui est difficile parce que, mon Dieu, l'État, nos églises sont un peu à l'abandon parfois quand on arrive et c'est difficile.
Alors on voit qu'il y a des travaux de rénovation souvent sur les églises, on voit les grands panneaux hein, comme tout le monde, où souvent l'État, la région et quelquefois le département ou d'autres partenaires peuvent financer certains travaux, mais sur des objets, quand il y a restauration d'objets, est-ce qu'il existe des aides ? Et quel est le rôle du conservateur, s'il a un rôle, pour aider, pour faciliter l'obtention des aides financières, par exemple ?
Mais disons que lorsqu'on veut restaurer un objet qui est classé à titre des monuments historiques, alors il y a deux types de classement, soit l'inscription, soit le classement. Ces deux types de classement permettent deux types de subventions. C'est-à-dire que pour un classement, on a 50% en règle générale de l'État dans le coût de la restauration. Et pour une inscription, on a à peu près 30%.
D'accord.
Mais c'est vrai que pour un objet classé, il faut qu'on s'adresse au conservateur des antiquités objets d'art de l'Aude, qui est Monsieur François Amigue. Nous sommes deux délégués qui les donnent dans cette tâche, moi-même et Monsieur Forêt. Et donc, il faut s'adresser à nous, et en particulier à Monsieur Amigue, pour demander une restauration. Parce que la restauration doit se faire avec des gens habilités à la restauration, des professionnels.
Et qui sont labellisés pour ce type de travaux.
Qui sont labellisés, bien sûr. Et donc, nous avons tout un réseau de professionnels à qui on s'adresse pour cette restauration.
Et comment dire, est-ce que les maires sont sensibles à ce patrimoine? Comment ça se passe? En général, quels sont les accueils? Est-ce que c'est vous qui allez les voir? Est-ce que c'est eux qui vous contactent? Est-ce qu'ils vous connaissent? Parce que là, après ces élections, on a aussi beaucoup de nouveaux maires. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là?
Ben, disons qu'ils devraient nous connaître quand même.
Oui, mais bon.
On n'est pas censé ignorer les services de l'État. Mais disons que on s'établit des programmes des zones géographiques où on opère. Hein, et on essaie de faire zone par zone, d'aller dans les églises et les communes. Parce que je rappelle que nous ne classons pas que du patrimoine religieux. Dernièrement, nous avons classé un wagon qui est à Narbonne et qui datait de la dernière guerre, de la guerre de 14. Donc on ne classe pas que du religieux, on classe aussi des objets scientifiques et autres. Mais c'est vrai que les maires devraient nous connaître. Bon, il y en a certains qui font appel à nous, qui savent très bien... qui connaissent très bien le patrimoine de leur commune, qui savent leur statut et qui font appel à nous, mais d'autres, bon, les nouveaux, c'est vrai, nous connaissent moins, mais enfin, bon, on se fait connaître.
Ouais. Oui, voilà, parce que pour les maires, ce n'est pas toujours facile, et puis ça dépend de quel milieu professionnel on vient, donc c'est pour ça que je posais la question. Vu de l'extérieur, ça peut être un peu difficile. Et par rapport avec... donc ça, c'est un atout important pour le tourisme, de pouvoir visiter aussi bien les églises ou de retrouver des bâtiments. Vous parliez d'un wagon, effectivement, ça peut être intéressant également, sachant que les églises sont de plus en plus fermées, quand même, surtout sur l'Aude, à cause des vols, justement, de ces fameux objets, d'ailleurs.
Ah, c'est indispensable. Enfin, pour beaucoup, ça leur semble aberrant de voir une église fermée, surtout qu'une église doit être ouverte au culte. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de vols que c'est difficile de les laisser ouvertes sans surveillance.
Oui, ou sans une protection, comme en Espagne où il y a des grilles ou des choses comme
Ou sans une protection efficace, c'est certain.
D'accord. Et par rapport à la FNACEM? Quel est le rôle de la FNACEM? Parce que ça, c'était vraiment dans votre métier de conservateur. Et que vous apporte, que peut faire la FNACEM en plus de ce métier de conservateur?
Oh, la FNACEM. La FNACEM, j'ai fait partie de la FNACEM bien avant d'être conservateur. Et ça a été dans le début, parce que j'y suis depuis les années 80, donc c'est quand même un bail. Dans le début, ça a permis au département... ça a été un travail de fond auprès des maires, auprès des élus, pour leur démontrer déjà la qualité de leur patrimoine et qu'il fallait à tout prix le protéger. Dans les années 80, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Nous sommes loin, loin. Et donc, ça
veut dire qu'il n'y avait pas de conscience à cette époque-là?
Ben, si, mais enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce patrimoine? Ça leur pesait plutôt qu'autre chose. Donc, ça a été difficile. Surtout qu'au début, nous étions sur du petit patrimoine, c'est-à-dire qu'on essayait de montrer aux maires que un lavoir, une fontaine, une croix de rogation étaient aussi importantes que l'église ou que la mairie. Donc, ça a été d'abord dans ce cadre-là que nous l'avons fait. Et puis, petit à petit, les particuliers sont venus nous demander des aides, soit un pour restaurer une église, soit pour...
ou un lavoir ou quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est aussi du petit patrimoine qui est très important. Et les touristes sont très demandeurs, notamment des villages remarquables. Et dans les villages remarquables, bien, c'est vrai que si on a ce petit patrimoine rénové, c'est toujours un plus.
Ah, c'est un plus. Et puis c'est la mémoire du village.
Oui, en plus de ça. Oui. Donc il y a des histoires aussi à raconter à tous nos touristes qui viennent visiter les villages. Et donc l'éolien, parce qu'on en parle beaucoup, et en tourisme, il y a quand même beaucoup de prestataires qui sont contre l'éolien. Et vous, qu'en pensez-vous?
Bien, disons que depuis 1999, on sait, parce qu'on est dans différentes commissions, qu'il y a eu une offensive importante de l'éolien. Et nous, on n'était pas contre l'éolien, forcément, à tout craint, mais enfin, quand même, le département de l'Aude, ayant un paysage très contrasté, qui est un peu un concentré de tous les paysages de France. Donc, nous n'avons pas ici des grands paysages comme ailleurs. Et ayant un paysage culturel et historique, parce que tout parle dans le paysage de l'Aude, on s'est dit que les éoliennes n'avaient pas leur place là-dedans, parce qu'elles avaient un impact sur le paysage trop fort. Leur dimension avait un impact trop fort et leur concentration raccourcissait les paysages. Donc on a déjà été contre sur cette base-là. Mais ensuite, on s'est aperçu, parce qu'on a été appelé par les personnes qui avaient des éoliennes à côté, qu'elles avaient un impact sur la santé assez fort, parce qu'elles font du bruit. Contrairement à ce qu'on peut dire, elles font du bruit. Elles font surtout des ondes basses et même des aigus qu'on entend moins. Mais enfin, bon, elles font du bruit. Et on a eu une personne au sein de la FNSM qui a fait des études là sur ce bruit et qui a permis de démontrer à quel point les études faites par les porteurs de projets éoliens n'étaient pas tellement exactes et ne montraient pas on ne pouvait pas mettre des éoliennes à 500 mètres des personnes, comme ils le disent, et qu'il faut vraiment au moins 1,5 km avant qu'une personne n'entende pas
l'éolien. Ah oui, 1,5 km. Ah oui, on est loin, effectivement, de cet éloignement quand on regarde les éoliennes sur le territoire, notamment quand on prend l'autoroute, on en voit quand même pas mal. Les habitations ne sont pas très loin, effectivement. Eh bien, on va faire une petite pause musicale avant de parler des coups de cœur touristiques et on va retrouver Schubert.
Am Himmel du, wir wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was macht ihr Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt. Bergauf, bergab, weit ein, weit aus, doch bin ich nirgendach zu Haus. Du aber wanderst auf und ab, aus Westens lieg in Ostens Grab. Weist Länder ein und Länder aus und bist doch wo du bist zu Haus. Der Himmel endlos ausgespannt ist dein geliebtes Heimatland. O glücklich wir, wohin ihr geht, doch auf der Heimatboden steht. Glücklich wir, wohin ihr geht, doch auf der Heimatboden steht. Auf der
Et bien voilà un bon moment de sérénité. Donc nous allons retrouver Marie-Chantal de Ferriol de la FNASEM et conservateur délégué aux antiquités et objets d'art de l'Aude et qui va nous parler donc de ses coups de cœur touristiques. Alors on va commencer par le coup de cœur touristique dans le monde hormis la France.
Ben c'est Rome.
Ah.
Rome parce que Rome c'est C'est le monde.
Oh.
Mais si.
Alors là, c'est ambitieux. Hein.
Mais oui.
Et pourquoi cela donc ?
Non, mais parce que à l'époque de la, dans la période romaine, c'est vrai que Rome, c'était le monde. Et c'est, quand on y va, ben, on a encore cette impression qu'on est au centre du monde à Rome. D'abord parce que chaque église quasiment est un musée. Puis c'est agréable de déambuler dans Rome. Et puis bon, c'est vrai qu'on passe des moments extraordinaires. Le musée du Vatican, j'ai failli y rester 8 jours. Mais bon.
C'est votre mari qui devait être content.
Voilà. Ou Saint-Louis des Anglais, ou la Trinité des Monts. Voilà, la Trinité des Monts. On est quand même sur une terre française quand on est à la Trinité des Monts, puisque ça a été construit par des Français. Donc voilà, c'est extraordinaire, Rome.
Un grand morceau d'histoire, un grand moment d'histoire. Coup de cœur touristique en France, hormis le Languedoc-Roussillon.
Bien, j'aime beaucoup, ça a été difficile hein, de choisir.
Mais ah mais enfin, c'est un questionnaire qui est difficile.
In fine, je me suis dit que quand même, l'endroit où qui me procurait le plus de calme et de sérénité, c'était quand même en France, c'était le Mont Blanc. Et celui où j'ai... C'est vrai que quand on admire le Mont Blanc et quand on monte là-haut au-dessus pour admirer toute cette mer de pics à côté du Mont Blanc, c'est vrai que c'est assez extraordinaire.
Coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude.
Alors, je vais dire peut-être quelque chose d'un peu bateau, mais pour moi, ce que j'aime beaucoup comme ville, c'est Perpignan. Parce que quand on est à Perpignan, il semble qu'on est déjà en vacances et que, voilà, on est ailleurs quand on est à Perpignan.
C'est-à-dire que pour vous, Perpignan serait très différent donc du reste du Languedoc-Roussillon ?
Un peu, oui, quand même. Oui, quand même.
Pourquoi ? Pour l'architecture ? La lumière ?
Il y a l'architecture, il y a la lumière, il y a toute une concentration culturelle qui est fort intéressante. Et puis, il ne parle pas patois, il parle catalan. Alors, on est ailleurs.
C'est vrai. Dès qu'on entend une langue étrangère, une langue, oui, il serait content. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, effectivement, de suite d'être ailleurs. Et il y a une très belle lumière, en plus. Coup de cœur touristique dans l'Aude, hormis le pays carcassonné.
Alors là aussi, bon, je ne vais pas être très extraordinaire, mais enfin, c'est vrai que Narbonne, pour moi, est un endroit assez exceptionnel dans l'Aude. Alors, les Narbonnais seront contents, mais enfin, oui. Parce qu'ils ne se sont pas remis d'avoir perdu la sous-préfecture et l'archevêché.
Mais et d'ailleurs, ils nous écoutent, hein, donc.
Voilà. Mais moi, je trouve que Narbonne, voilà, on est. Quand on est à Narbonne, Carcassonne, c'est une partie. Mais quand on est dans Narbonne, on est dans l'histoire et on est dans la grande histoire. Parce qu'étant donné que Narbonne est devenue la tête de la provincia narbonensis dans la période romaine, que ça a été la première capitale de la province narbonnaise créée en 118, que ça a été celle qui était nommée Narbo-Marcius. C'est vrai que bon, Narbonne, dès que vous êtes à Narbonne, c'est dommage, on n'a aucun élément en élévation de la période romaine. Contrairement à Nîmes, on a la maison carrée.
Oui.
Mais enfin, à Narbonne, vous creusez 30 cm, ça y est, vous êtes dans le romain. C'est pas...
Oui, c'est un rêve.
Ah oui, non, oui. Et puis, bon, il y a un tas d'éléments qui sont restés quand même de la période romaine.
Mais alors, mon petit doigt m'a dit que vous aviez fait le recensement, justement, en vue du futur musée de la Romanité. Bon, j'espère qu'il verra le jour prochainement. Mais vous avez fait ce recensement il y a combien de temps ? Un an à peu près, non ? Quelque chose comme ça, un peu plus.
Un peu plus. Et c'est vrai que ça a été extraordinaire. D'avoir concentré tout ce qu'on avait découvert sur Narbonne, ça donnait une image, ça fortifiait cette image de la Narbonne romaine. Bon, là, il y a énormément d'éléments qui sont...
Donc ça veut dire que là, c'est caché quelque part, c'est stocké quelque part.
Mais c'est stocké soit dans les musées, soit dans les réserves. Il y a le musée Lamourquier, le musée archéologique, et il y a toutes les réserves, dans en particulier Sainte-Rose. Mais oui, j'espère que ce musée verra le jour, parce que ça va être un moment fort pour Narbonne.
Et donc un grand pôle touristique.
Languedoc.
Oui, pour le Languedoc. Oui. et puis pour l'Aude en général, je pense. Ça va certainement attirer une autre clientèle. On finit donc par le coup de cœur en Pays Carcassonnais.
Alors, pour le Pays Carcassonnais, disons, pour moi, c'est la cité.
Alors, c'est comme pour beaucoup de gens, c'est un peu bateau. Hein.
Voilà, c'est un peu bateau, mais. Moi, c'est vrai que bon, la cité, d'abord, ça m'amène visuellement, un peu de sérénité parce que bon, quand je suis fatiguée, je fais un tour dans les lys et ça va mieux. Parce que je sais pas pourquoi les pierres comme ça, cette proximité des pierres permet de se ressourcer. Mais surtout parce que quand je vois la cité comme certains, c'est que pour moi, la cité, c'est comme un tableau qui se lève. C'est-à-dire qu'on voit la cité surgir et comme quand on voit un tableau, on comprend le tableau, là, on voit tous les éléments du tableau qui vous apparaissent et vous les comprenez. Et donc, on dit que le tableau se lève. Moi, c'est pareil. La cité, c'est un tableau qui se lève parce que quand on regarde bien toutes les... Bon, on connaît l'histoire de la cité. Il faut connaître un peu l'histoire de la cité. Mais enfin, ne serait-ce qu'à l'observation, on voit qu'il y a différentes manières de construire, que tout n'est pas construit de la même manière. Et tous ces morceaux vous montrent la période wisigothe, le XIIe siècle, le XIIIe siècle, etc. On rentre dans l'histoire, là.
Mmh. Et alors, est-ce que vous auriez un endroit à conseiller aux auditeurs ? Plus particulièrement dans la cité. Qu'est-ce qui parlerait le plus pour vous ?
La basilique parle beaucoup. La basilique parle beaucoup parce que il y a deux endroits. Il y a la basilique parce que d'abord on voit cette partie romane qui a été au moment où la Carcassonne est rentrée dans la royauté, on a ajouté tout ce cœur. Gothique qui éclaire complètement cette basilique. D'autre part, parce que c'est l'endroit où de grands dessins sont venus. En particulier, il ne faut pas oublier que Saint-Dominique a prêché dans la basilique.
Mmh, c'est vrai.
Mmh. Et oui. Et ensuite, il y a le château Comtal. Alors, le château Comtal, parce que ça aussi, c'est un peu comme un puzzle, le château Comtal. Alors, il y a toute la partie ancienne des premiers contes de Carcassonne qu'on voit quand on rentre. Et puis, il y a toutes les parties rajoutées par la royauté et autres. Là aussi, c'est bon.
Ce sont des moments magiques. Bon, voilà. Bah, c'est bien, ça nous a fait voir la cité de Carcassonne autrement. Merci beaucoup pour ce beau voyage, Marie-Chantal. Et puis, le mois prochain, chers auditeurs, eh bien, nous changerons de registre. Vous retrouverez Evelyne Robert, qui est la directrice de l'atelier du livre, donc atelier nouvellement installé à Carcassonne, donc dans Notre-Dame de l'Abbaye, mais aussi à Montaulieu, village du livre. Merci beaucoup et passez un très bon week-end. À très bientôt.